Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, il y a 800 ans cette année, le 6 août 1221, Saint Dominique rendait son âme à Dieu. Il avait 51 ans. Son ordre avait été approuvé par le pape Honorius III 5 ans auparavant et comptait déjà 60 couvents de frères et 4 monastères domoniales cloîtrés. 13 ans plus tard, le 13 juillet 1234, devant la multiplication des miracles se produisant sur son tombeau, le pape Grégoire IX le canonisa en déclarant « Je ne doute pas plus de la sainteté de Dominique que de la sainteté des apôtres Pierre et Paul ». Chers fidèles, nous voulons profiter de ce 8e centenaire pour tenter de vous faire connaître un peu mieux, en quelques sermons, la vie, les vertus, la mission de Saint Dominique dans l'Église. Nous commencerons aujourd'hui en traçant les grandes lignes de sa vie. Nous la diviserons en 3 périodes, l'Espagne, le Languedoc, et enfin Rome, le centre de l'Église. La période espagnole, c'est celle de la maturation de sa vocation. Celle du Languedoc, en plein pays cathare, c'est l'étape de l'apostolat personnel. La 3e période, la période romaine, c'est la plus importante, la plus féconde, la plus durable. C'est la fondation, avec le chef de l'Église, d'un ordre religieux qui se répandra par toute la terre. Nous verrons dans quel but. Chacune de ces périodes durera environ 10 années. Comme elles sont trop riches pour que nous puissions en raconter tous les détails dans un sermon, nous prendrons pour chacune d'elles un tableau le plus caractéristique. Commençons par nous transporter en Espagne, plus précisément en Castille, vers la fin du XIIe siècle. Et rendons-nous dans la ville d'Osma. Là, dans le cloître de la cathédrale, un saint évêque avait groupé, en un collège de chanoines, les prêtres les plus éminents en science et en vertu de son diocèse. Ceux-ci avaient élu comme sous-prieur un jeune prêtre de 28 ans qui brillait parmi eux comme l'étoile du berger, disent les chroniqueurs, le dernier par l'humilité du cœur, le premier par la sainteté. Il avait pour nom Dominique de Guzman. Dieu lui avait donné une grâce spéciale de prière pour les pécheurs, les pauvres, les affligés, écrit un contemporain. C'était pour lui une habitude très courante de passer la nuit en prière. Au cours de ses oraisons, il avait accoutumé de proférer des cris et des paroles dans le gémissement de son cœur. Il ne pouvait se contenir et ses cris, sortant avec impétuosité, s'entendaient nettement de l'étage. Une de ses demandes fréquentes et singulières à Dieu était qu'il lui donnât une charité véritable et efficace pour s'attacher à procurer le salut des hommes, car il pensait qu'il ne serait vraiment membre du Christ que le jour où il pourrait se donner tout entier, avec toutes ses forces, à gagner des âmes, comme le Seigneur Jésus, sauveur de tous les hommes, se consacra tout entier à notre salut. Qu'est-ce qui donnait tant d'angoisse à l'âme de Dominique, au point qu'il criait dans la nuit « Que vont devenir les pauvres pécheurs ?» La situation était-elle si préoccupante en cette période de l'histoire qui nous paraît comme une apogée de la civilisation chrétienne, fin du XIIe ? N'ayons pas une vue trop idyllique du passé. Ce n'est pas pour rien que l'Église de cette terre s'appelle l'Église militante, l'Église qui combat. Dieu ayant laissé la liberté à ses créatures, que ce soit les anges ou les hommes, Il y en aura toujours qui accepteront son plan de salut et d'autres qui le combattront. Cette terre sera jusqu'à la fin du monde le théâtre de la lutte entre la cité de Dieu et la cité des hommes, comme dit saint Augustin, entre l'Église et la contre-Église. Vers la fin du XIIe siècle en Europe, si notre Seigneur régnait dans les institutions, ce qui est le plus important pour sauver un plus grand nombre d'âmes, de noirs nuages s'amoncelaient pour la chrétienté. En Espagne, l'islam avait déferlé sur le pays en 3 ans, en 690, réduisant les catholiques en servitude. Il faudra 8 siècles pour reconquérir tout le pays. La victoire définitive, en effet, n'aura lieu qu'en 1492. On en est donc encore loin au temps de Saint-Dominique, et à cette époque, l'issue était encore incertaine. Dans le Languedoc et dans le nord de l'Italie, une partie importante du nord de l'Italie, la secte cathare était un cancer qui se développait au cœur de l'Europe, soutenu par les seigneurs du Languedoc alliés au roi d'Aragon en Espagne. Sans compter qu'à l'est de l'Europe, de cruelles tribus païennes, les Cumans, restaient à évangéliser au prix du martyre. Le plus dangereux, la plus grande urgence, était cependant l'hérésie cathare. L'islam était un ennemi extérieur qui tuait surtout les corps. Les Cumans n'étaient pas une menace pour l'Europe. Mais l'hérésie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est un ennemi qui dissout la chrétienté de l'intérieur et qui tue les âmes, qui les conduit à l'enfer éternel. L'hérésie cathare, qui est l'une des sources d'inspiration de la franc-maçonnerie, professait le dualisme, un principe bon et un principe mauvais, plus ou moins égaux selon les sectes, et qui s'affrontaient dans le monde. Le principe mauvais était censé être à l'origine de tout ce qui est matériel, corporel. Et cela avait des conséquences dramatiques. Si tout ce qui est corporel est mauvais, Dieu n'avait pu s'incarner, ni donc mourir sur la croix. C'était la négation de tout le mystère de la rédemption. Les sacrements qui sont composés de matière et de forme devaient être rejetés. Le mariage, puisque par la génération il enferme des esprits dans un corps, le mariage devait être aussi aboli. L'Ancien Testament, dont le Dieu avait commandé aux hommes de croître et de se multiplier, était à proscrire. Et les cathares combattaient tout ce qui tendait à stabiliser la vie humaine terrestre, comme la propriété privée, la nécessité d'un pouvoir politique, les serments qui étaient la base de la société médiévale. Les prédicateurs cathares parcouraient les contrées en affectant une fausse pauvreté qui impressionnait les populations. Et ils avaient surtout le soutien d'un certain nombre de seigneurs qui en profitaient pour se dégager de l'autorité de l'Église. On verra la même chose plus tard en Allemagne avec le protestantisme. Le père Gillet, ancien maître général des Dominicains, écrivit dans une vie de saint Dominique « C'est l'hérésie cathare et elle seule qui, dans les desseins de Dieu, a décidé de la vocation de Dominique, de son apostolat, de son œuvre. » Alors qu'il s'était rendu à Rome avec son évêque Diego de Azevedo pour demander la permission d'aller évangéliser les Cumans, le pape Innocent III l'envoya dans le midi de la France y rejoindre ses légats pour combattre l'hérésie sur son propre terrain et pour ramener à l'Église les populations égarées. Nous pouvons passer maintenant à notre deuxième tableau, Saint-Dominique en Languedoc. Cette période de la vie de notre saint, écrira-t-on, est une histoire fabuleuse qui tient de l'épopée et où abondent les miracles. Elle est essentielle à observer car c'est durant ces années albigeoises que va se former, que va se forger une méthode apostolique que Dominique transmettra ensuite à l'ordre que la Providence lui fera fonder. On peut diviser cette période en deux parties qui seront les deux versants inséparables de la prédication dominicaine. Détruire les erreurs qui empêchent les âmes de se sauver et enseigner la doctrine du salut aux âmes de bonne volonté une fois que l'obstacle a été enlevé. Les prédicateurs de la vérité, dit saint Thomas d'Aquin, doivent faire deux choses, à savoir exhorter selon une sainte doctrine et vaincre la contradiction. L'hérésie cathare tenait les âmes captives, c'est à elles qu'il fallait d'abord s'attaquer. Saint Dominique et son évêque ont rejoint le groupe de missionnaires cisterciens envoyés par le pape pour s'affronter à l'hérésie, mais sans succès. Pour attirer les populations, les hérétiques affectaient une fausse pauvreté afin de paraître plus crédibles en face de la richesse de certains clercs. L'évêque et Dominique convainquirent d'abord les cisterciens d'aller affronter l'hérésie avec une pauvreté semblable à celle des apôtres, allant à pied et mendiant leur nourriture. Ils montreraient ainsi que l'Église catholique était capable de se réformer elle-même. Un second point restait à régler, celui de l'attaque elle-même à mener. Comme le font souvent les sectes, les cathares troublaient les esprits en s'appuyant sur l'Écriture, qu'ils interprétaient bien sûr à leur façon. Ce qu'il fallait faire, c'était les confondre en prouvant avec l'Écriture elle-même que seule l'Église catholique était la véritable Église du Christ. Dominique y excellait, car avant d'avoir été chanoine à Osma, il avait été un professeur réputé d'Écriture sainte à la grande université espagnole de Palencia. Et cela avait été le résultat des études acharnées de jour et de nuit qu'il avait menées pour arriver au sacerdoce. Il fallait cependant un certain courage pour aller affronter ainsi des hérétiques sur leur propre territoire et des hérétiques qui étaient appuyés localement sur le pouvoir séculier qui les défendait. Arrivant dans un village, on convoquait la population pour une joute publique avec les cathares. Joute très difficile, car les cathares étaient d'une habileté redoutable dans le maniement des citations de l'Écriture. Et le jury, composé de bourgeois, était acquis par avance à l'hérésie ou du moins très favorable. Les discussions étaient acharnées et elles duraient parfois une à deux semaines. Pour engager de telles disputes, il fallait posséder à fond et presque de mémoire aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament et être capable de parler pendant des heures sans faillir. Entre les joutes orales, chaque parti écrivait sa thèse, qu'il résumait en quelques pages. Il y eut une fois un miracle où les hérétiques, ayant jeté dans le feu leur mémoire et celui de Dominique, ce fut leur mémoire qui brûla et celui de Dominique qui fut rejeté intact par les flammes. Il y eut des conversions spectaculaires. On allait de victoire en victoire. Et à leur départ, les missionnaires étaient souvent accompagnés pendant un long moment par le peuple. Ajoutons que Dominique argumentait avec les hérétiques sans violence ni amertume. Les chroniqueurs de l'époque noteront tous qu'il s'efforçait de les ramener à la vérité par la modération et la patience. C'est d'ailleurs toujours ainsi que l'Église a agi. Cependant, une fois les missionnaires partis, les nobles qui patronnaient l'hérésie reprenaient le contrôle de la population, et c'était le drame de cet apostolat. Alors les cisterciens finirent par se décourager et ils revinrent dans leur monastère. Diègue et Dominique ne s'avouèrent pas vaincus et ils décidèrent de continuer. L'évêque Diègue repartit en Espagne pour chercher un renfort de missionnaires, mais il ne reviendra jamais, trouvant la mort peu de temps après son retour. Alors Dominique resta seul. S'installant dans un pauvre réduit où il dormait par terre à Fanjeaux, au cœur de l'hérésie, il sillonnera le pays à pied au risque de sa vie pendant 10 ans, confondant les hérétiques, fortifiant les catholiques dans la foi, confirmant sa doctrine par des prodiges et des miracles. Un événement important, cependant, va donner une force irrésistible à sa prédication. La révélation du rosaire qu'il reçut de Notre-Dame à Prouille, en contrebas du village de Fanjeaux, vers l'année 1213. Et le rosaire conçu à la fois comme puissant engin de guerre pour défendre l'Église et la chrétienté, c'est le pape Léon XIII qui parle, et aussi comme méthode de prédication pour évangéliser les populations une fois l'hérésie vaincue. C'est le rosaire de saint Dominique qui obtint une victoire miraculeuse des armées catholiques à Muret le 13 septembre 1213. Victoire décisive dans la croisade décidée à regret par le pape, non pas pour tuer les cathares, mais pour briser le pouvoir politique des seigneurs qui, en soutenant les chefs de l'hérésie, empêchaient l'évangélisation du peuple. Et c'est le rosaire de saint Dominique et ensuite de ses fils qui déracina complètement le catharisme dans les esprits et ramena les populations à l'Église. Les cathares niaient les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Si l'absence de prédication catholique due à la déficience du clergé avait favorisé l'implantation du catharisme, la prédication populaire des mystères du rosaire, jointe à la prière des paters et des aves, sera le remède radical pour rechristianiser ces régions. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il nous faut passer maintenant au troisième tableau, après l'Espagne et le Languedoc, Rome. Septembre 1215. Dominique vient d'arriver à Rome avec l'évêque Foulque de Toulouse pour assister au 4e concile de Latran, convoqué par le pape Innocent III pour décider des moyens de combattre l'hérésie, concile qui devait s'ouvrir 2 mois plus tard. La persévérance de saint Dominique, continuant à prêcher seul pendant 10 ans pour ne pas abandonner les âmes là où la Providence l'avait envoyé, cette persévérance avait porté ses fruits. Quelques compagnons s'étaient joints à lui au cours des années qu'il avait groupés à Toulouse en un embryon de couvent. Et des jeunes filles cathares, converties à sa parole, formaient maintenant un petit monastère de moniales contemplatives installé à Prouille, là où Notre-Dame avait révélé son rosaire. Par leur vie cachée de prières et de sacrifices, elles seront le soutien des missionnaires. Dominique arrivait donc à Rome avec 10 ans d'expérience de prédication contre l'hérésie, d'évangélisation, et en même temps comme supérieur de 2 communautés en fondation. Une expérience qui intéressera vivement le pape. Le concile, en effet, demandera, citation d'un décret du concile, que les évêques se choisissent des hommes capables de s'acquitter de la sainte prédication, puissants en œuvre et en discours, qui visiteront avec sollicitude le peuple à eux confié et qui l'édifieront par leurs exemples. Le concile insistait aussi, étant donné la décadence du clergé, que l'on trouve des maîtres pour enseigner aux clercs l'Écriture sainte et la théologie. Le souhait du concile était providentiel pour saint Dominique, car telle était l'œuvre à laquelle il se sentait maintenant appelé. Il sollicita un entretien avec Innocent III pour traiter de la possibilité de fonder un ordre de prêcheurs qui s'adonnerait à cette double tâche auprès du clergé et auprès du peuple. Le pape réserva d'abord sa réponse, ce qui est normal dans l'Église, on ne fonde pas immédiatement un ordre religieux. Et puis d'autre part, quand même, jusqu'ici, la prédication avait été confiée uniquement aux évêques. Ils pouvaient nommer des prédicateurs, mais seulement pour leur diocèse. Or, saint Dominique parlait d'un ordre religieux qui aurait le pouvoir d'enseigner et de prêcher dans toute l'Église. D'autre part, le Concile venait de mettre un frein à la multiplication des règles religieuses, multiplication qui causait une certaine confusion. Aussi le Concile exigea-t-il qu'on se contente maintenant des règles déjà existantes. Et c'est ce que le pape conseilla à Dominique. Notre saint revint en Languedoc pour se concerter avec ses frères. On se décida à prendre la règle de saint Augustin que l'on préciserait par des constitutions qui feraient renouer le nouvel ordre avec l'idéal de vie sacerdotale tel qu'il existait aux temps apostoliques et qui dura pendant 9 siècles dans l'Église. Des prêtres vivant en communauté, n'ayant aucun bien en propre parce qu'ils mettaient tout en commun, chantant l'office de jour et de nuit, et s'adonnant au ministère de la prédication. Saint Dominique y ajouta les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et il s'adjoignit des frères pour décharger les prêtres de la plus grande partie du matériel et pour soutenir l'œuvre par leurs prières et le sacrifice de leur vie cachée. Les prêtres pourraient alors se consacrer pleinement à la prière et à l'étude pour travailler à la conversion des âmes. La mort ne permit pas à Innocent III d'approuver le nouvel ordre religieux. L'honneur en revint à son successeur, Honorius III, le 22 décembre 1216. Quelques jours plus tard, alors qu'il priait dans la basilique Saint-Pierre, saint Dominique aperçut tout à coup les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul venant du ciel vers lui. Saint-Pierre lui présenta un bâton et Saint-Paul le livre des Écritures et tous deux lui dirent « Va et prêche ». Dans la symbolique du Moyen-Âge, le bâton remis à un fondateur d'ordre signifie l'autorité religieuse et le livre des Écritures est l'emblème de la prédication doctrinale et apologétique, en d'autres mots, l'enseignement de la doctrine et la défense de la foi. Dans les dimanches qui viennent, nous verrons quelles conséquences tirer de l'histoire de saint Dominique pour la vie de l'Église et pour notre propre vie chrétienne. Au cours de cette messe, faisons nôtre cette prière que l'Église adresse au ciel chaque année le 4 août en la fête de notre saint. Dieu, qui avait daigné faire briller en votre Église les mérites et les enseignements du bienheureux Dominique, votre confesseur, faites que par son intercession, elle ne manque jamais des secours dont elle a besoin et qu'elle étende sans cesse ses conquêtes spirituelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.